On va avoir la troisième table ronde du cycle d'exposition Comment bâtir un univers qui ne s'effondre pas deux jours plus tard, qui est commissariée par Marie Corre et Vladimir Demoule, qui sont avec nous. Et ce soir, on reçoit Ingrid Lukega, qui est critique d'art et journaliste, pour discuter autour de cette exposition, qui donc est la troisième du cycle, qui s'appelle Entropie. Et voilà, on va partir sur un certain nombre de pistes autour des œuvres et des directions qui sont prises par cette dernière exposition. Et on va donc peut-être commencer par Ingrid, justement, pardon, excuse-moi, par Marie et Vlad. Peut-être en résumant le cycle général, l'ensemble du projet, l'ensemble de votre projet, puisque vous êtes en résidence à la Maison Populaire depuis janvier. Donc vous avez déployé trois expositions qui vont être suivies d'un catalogue qui sera publié au moment du finissage de cette exposition, c'est-à-dire le 9 décembre, je crois,
oui.
c'est ça? Voilà. Catalogue auquel ces tables rondes contribuent, mais peut-être du coup si vous pouvez nous redire quelles sont les directions générales que vous avez prises pour ce projet, et puis plus particulièrement pour ce volet, troisième volet qui s'appelle Entropie. Je laisse la parole.
Donc du coup, donc, voilà, comme on vous a dit, donc là vous êtes dans l'exposition donc le troisième volet donc, de notre résidence d'un an donc, à la Maison Populaire. Donc le cycle de ces trois expositions et des événements associés, on l'a intitulé Comment bâtir un univers qui ne s'effondre pas deux jours plus tard, qui est le titre d'un discours que Philippe Kadic aurait donné, mais en fait, on ne sait pas vraiment s'il l'a donné, il s'avère quand même plus plausible qu'il ne l'ait pas donné. Où du coup il débat de la montée du fascisme avec Norman Schwinran et il est censé être interviewé donc, dans les tables tournantes à Disneyland. Les tasses. Table ronde, table tournante.
Moi, bonne vente, tout est bien lancé.
Donc du coup la première exposition s'intitulait Simulacre. Je vais revenir un peu sur le. Peut-être sur le titre du cycle. Oui. Ouais.
Donc le texte de Philippe Kadic en question, c'est un texte dans lequel il aborde par la forme du discours les thématiques qui sont les siennes et qui lui sont importantes, c'est-à-dire qu'est-ce que la réalité et qu'est-ce que un être humain authentique, en toute simplicité. Et donc, comme disait Marie, ce discours commence par un débat avec Norman Spinrad sur la montée du fascisme à Disneyland, puisqu'il se trouve que Philippe Kadic habite juste à côté de Disneyland et habitait. Et au fur et à mesure, il va revenir à travers ses bouquins sur son rapport à la réalité et sur sa recherche de notre relation en tant qu'être humain au réel et au monde. Et c'est un discours, plus il avance, plus il va être empreint d'ésotérisme et de fiction, sans qu'on sache vraiment démêler ce qui tient du délire total et ce qui tient d'une réelle expérience vécue. Et nous, c'est ce qui nous a intéressés aussi dans ce texte, c'est justement tout ce travail de fiction autour du réel. Et de ce vécu, en gardant toute distance nécessaire avec certains points de vue ésotériques, mais en tout cas, c'est ça qui nous a intéressés. Et puis on trouvait le titre du discours aussi élégant, donc il nous a plu. Et cet emprunt, on avait envie de le faire, et puis de parler de Philippe Kadic et de ses obsessions à travers nos trois expos.
Et peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est que... Tiens, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Thierry Fournier.
Pardon, c'est nous qui devions présenter.
Non, J'ai oublié. Thierry Fournier, je suis artiste et commissaire d'exposition. Peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est que chaque fois, chaque année, les cycles d'exposition de la Maison Populaire sont confiés à un ou une commissaire à partir d'un thème qui est proposé par la Maison Populaire.
Absolument, qui était enfin, en l'occurrence...
Chaque fois, il y a une chose comme ça, assez souvent, qui est un peu fine, quoi, enfin, qui n'est pas... C'est pas un programme dans le sens d'un cahier des charges qui serait extrêmement précis, mais il y a, pour être en bien, plutôt une piste qui est donnée au départ par la Maison Pop.
Qui, en fait,
ça peut être intéressant de rappeler cette piste et de voir comment vous l'avez, vous en êtes emparé et comment vous avez proposé.
C'était Espace-temps, qui est donc un vaste sujet, sous-titré Intuition, découverte, connaissance. Donc avec, a priori, plutôt une volonté art-science, qu'on a un petit peu détournée. Et voilà. Et vas-y sur simulacre.
Oui, du coup, donc, dans ce thème espace-temps qu'on a pris un peu au pied de la lettre, on s'est dit qu'on allait faire, donc, dans ces trois expositions, peut-être une exposition qui allait parler de l'influence du temps sur l'espace, une qui allait parler de l'influence de l'espace sur le temps et une qui allait parler d'un peu des deux. Donc, c'était un peu notre point de départ. Et puis, on a un peu fouillé aussi. Après, la première exposition, Simulacre, c'est vrai que c'est un titre qu'on emprunte aussi à Philippe Cadic. Et donc, dans cette exposition, c'est celle par laquelle on allait entrer dans le cycle. Qui allait plutôt parler justement comme ça donc de ce rapport, donc de l'effet de l'un sur l'autre, les deux, c'est celle-là qu'on a, les deux, dont je parlais donc les deux en même temps. Donc dans Simulacre, on traitait de notre rapport au réel, notre rapport à l'univers, notre perception donc de ce réel, donc entre ce qu'on voit et ce qu'on croit, et de poser la question de voilà, donc. Est-ce que seulement ce qu'on croit peut aussi être réel et du coup aller un petit peu plus loin. Donc on a essayé d'aborder du coup ces questions grâce du coup aux œuvres des artistes qu'on présentait, en passant par des univers simulés plutôt orientés jeux vidéo, avec par exemple Parallèle 2 d'Arun Farocki, de l'hypergéographie de Joe Hamilton, qui est un Tumblr qui se déroule en continu et qui se désagrège avec le temps. D'univers simulés plutôt un peu fantasmés, imaginaires, avec des chimères, là plutôt sur la partie un peu sculpture, des chimères, donc des agencements d'ossements, d'animaux pour créer de nouvelles espèces, qui questionnaient aussi donc notre rapport à la connaissance et les limites de celle-ci. Donc voilà, donc c'était vraiment dans ce sens-là qu'on voulait aller et de poser beaucoup de questions sans jamais forcément y répondre. Dans la deuxième exposition, donc, qui s'intitulait Relativité, à chaque fois tous nos titres sont au pluriel aussi pour proposer plusieurs pistes en tout cas et de dire qu'il n'y a pas une seule réponse possible. Donc dans Relativité, donc on parlait de notre perception du temps par rapport à un espace. Donc le temps, il pouvait se représenter sous forme de donc soit du temps qui s'écoule, mais du temps physique et du temps psychologique. Donc le temps physique, le temps mesurable, scientifique, donc ça pouvait être des ondes sonores, des ondes lumineuses, le temps qui s'écoule, ou le temps psychologique qui pour le coup lui est plutôt le temps ressenti, donc qui fait que quand on s'ennuie, le temps est plus long et le temps passe plus vite. Donc, par ce biais-là, du coup, on a abordé plutôt des questions qui touchaient à la mémoire. Et du coup, ici, Simulacre, donc la dernière exposition. Donc, oui, oula. J'ai un briquet sur le.
T'as bouclé.
C'est ça. Non, mais c'est très bien. Comme ça, voilà, on attaque le vif du sujet.
Donc voilà. Donc ici, Entropie. Donc nous parle donc du moment justement où ces systèmes physiques, psychologiques vont se transformer, vont se désorganiser et vont donner quelque chose d'autre ou pas. Et du coup on arrive voilà donc au moment où quand on parle comment bâtir un univers qui ne s'effondre pas deux jours plus tard, C'est vrai que si on lit Kadic, on se rend compte que lui, ce qui l'amuse plutôt, c'est de construire des univers qui s'effondrent dans ses histoires et d'observer ce qui se passe à ce moment-là. Puisque lui-même dit que le vieux doit disparaître pour que le nouveau, pour laisser la place au nouveau. Donc on en arrive un petit peu, en tout cas ici, là, à ce moment-là, où les choses se désorganisent, et qu'est-ce qui se passe?
Tu veux rajouter quelque chose? Oui, là, peut-être sur entropie.
Juste sur le titre, on est parti de l'entropie thermodynamique, qui est donc une loi de mesure de la désorganisation des systèmes en thermodynamique, et de voir comment cette question de la désorganisation pouvait se développer sur dans d'autres domaines que la thermodynamique, enfin, même si elle a été aussi appliquée aux communications, aux médias, à plein de choses. Mais
parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on détourne... On donne un titre très précis aux expositions, mais on a essayé à chaque fois de passer un peu à côté, en fait. De pas traiter exactement de ça dans la manière où on l'attendrait, en fait.
Et ça, d'ailleurs, je pense que c'est une chose dont on pourrait reparler après. Je pense que là, ça serait bien de parler de questions d'entropie avec lui. Mais on pourra en parler après, peut-être même d'une manière un petit peu plus générale, c'est-à-dire la façon dont on peut se positionner, en tout cas même par exemple la façon dont vous positionnez par rapport à ce qu'on pourrait appeler des approches thématiques, enfin, parce que voilà, le fait de résumer comme ça des cycles sur des mots est en même temps, j'ai l'impression, chaque fois accompagné d'une sorte de distance aussi par rapport à ce qui pourrait paraître comme un thème. Mais peut-être ça, on peut en parler plus tard. Yvine, est-ce que tu as envie de déjà d'envoyer une première fois sur cette notion d'entropie, sur la manière dont tu l'as perçue par rapport à... On a visité l'exposition. L'exposition, excuse-moi, vient d'ouvrir, en fait. Hein, son vernissage avait lieu...
Mardi dernier.
Son vernissage avait lieu mardi prochain.
Ça peut être un titre d'expo, d'ailleurs.
Et... voilà, donc on a pu visiter l'exposition ensemble la semaine dernière. Moi, est-ce que...
Oui, alors en fait, moi, ce que je perçois aussi dans ce panorama d'œuvres où on observe, en fait, qui sont toutes très différentes, certaines qui tirent plus vers la science, d'autres qui tirent plus vers la science-fiction, d'autres qui sont au contraire totalement intimes, je pense qu'il y a quand même une tonalité d'ensemble qui s'en dégage, et qui serait à la fois un moment historique d'un point de vue théorique et une espèce de ressenti assez intime du monde. Donc pour ce qui est du moment historique, je pense que c'est assez intéressant que la première expo ait été placée sous le signe du simulacre, puisque moi, quand j'entends simulacre, j'entends d'abord, venant de la philosophie, le concept de Baudrillard. Donc Baudrillard, qui au début des années 80, va nous dire justement... qu'il n'y a plus de distinction entre la nature et la culture, puisque la sphère entière de la vie quotidienne a été culturalisée, comme il le dit, c'est-à-dire à la fois les œuvres, les produits commerciaux et la nature font partie de la même sphère, puisque le capitalisme s'est à ce point étendu qu'on vit dans un monde non seulement globalisé, mais qui, dans son intégralité, est devenu produit. Donc moi, dans cette exposition-là, c'est pas tellement Baudrillard que j'entends résonner, mais plutôt un autre théoricien du postmodernisme qui s'appelle Frederick Jameson, qui est donc quand on dit postmodernisme, on a plutôt tendance en France à penser à Jean-François Lyotard, qui donc en 1980 a écrit ce livre, Le postmodernisme. Mais il y a aussi une branche américaine, donc qui est cet auteur qui s'appelle Frederick Jameson, et qui, lui, va plutôt appliquer le postmodernisme à ce qu'il appelle la sphère culturelle et au capitalisme tardif. Et donc, dans les années 80, il y a vraiment un changement de paradigme qui se met en place, et donc qui, pour Jameson, se définit selon quelques critères très simples, en fait, qui seraient la mondialisation du marché, puisque c'est le moment où la Chine fait véritablement son entrée sur le marché, sur la production. Donc on voit ça aussi parce que vous avez choisi d'inclure un artiste chinois qui va évidemment parler de la circulation de signes et des œuvres d'art qui deviennent aussi totalement appropriables. Ensuite, on est aussi entré dans une économie post-fordiste. Donc ce qu'on voit peut-être à travers des œuvres qui vont s'appuyer sur des produits qui ont été déjà faits. Donc je pense par exemple aux photographies de David Del Ruel qu'on a ici, puisque c'est vraiment du matériau trouvé en fait, qu'il va s'agir pour l'artiste de venir transformer pour changer la lecture.
Alors, peut-être juste pour préciser du coup ce travail de David Del Ruel, qui est un très jeune artiste belge. Lui, il a récupéré des centaines de photos de familles chez des antiquaires. C'est des familles américaines. L'essentiel de ces photos n'ont pas vraiment d'intérêt. Elles ne sont pas très bien cadrées, elles sont floues. Elles représentent des gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît plus, de familles avec lesquelles on n'a aucun rapport. Et en fait, quand il s'est rendu compte que ces photos prises telles quelles ne lui communiquaient absolument aucune émotion, mais qu'à partir du moment où il commençait à les... à pratiquer une forme d'ablation de certaines parties des photos et de déchirer ces photos, de les reconstituer autrement. Là, il y a quelque chose d'un peu plus universel qui arrivait à se communiquer et qui a une émotion qui arrivait à passer de façon différente. En précisant juste que, à part le petit triptyque au milieu, chaque collage de photos, c'est une seule et même photo. Il n'a pas collé deux photos ensemble pour reconstituer une image qui voudrait dire autre chose.
Oui, lui dit aussi que ce qui est intéressant justement dans ce travail-là, c'est, puisque d'habitude donc lui il fait des collages donc, assez surréalistes où il va plutôt assembler des visuels qu'il trouve dans des vieux magazines, donc qui n'ont pas forcément grand rapport les uns avec les autres, il va les assembler pour créer des univers surréalistes. Et là, pour une fois dans ce travail-là, au lieu d'assembler les choses, il retire quelque chose du coup à un médium existant, enfin en tout cas à un support existant, pour leur donner du sens.
Puis dans un rapport beaucoup plus intime à l'œuvre que ce que sont ces collages surréalistes.
Et alors, du coup, oui,
le troisième point, ce sera justement l'arrivée des nouvelles technologies de l'information. Donc lui, il va plutôt parler de la télévision, mais on a ici deux œuvres. Donc la vidéo de Miao Xiaoshun qui est derrière nous et l'animation ou la vidéo du coup de Pierre-Jean Lebassac qui est également dans le coin aussi derrière nous, devant nous. Donc en fait on a vraiment ces trois paramètres qui sont réunis dans l'exposition. Et je pense que ce qui est assez intéressant chez Jameson, c'est que pour lui, justement, cette influence du capitalisme et de la mondialisation, ça va se traduire par une logique spatiale. Donc, un des concepts essentiels chez lui, c'est le concept de cartographie, et plus précisément de cartographie cognitive. C'est-à-dire qu'il va beaucoup s'inspirer de la science-fiction et de la littérature, puisque lui-même, qui est philosophe, il a pourtant fait une thèse de littérature qui portait sur l'œuvre littéraire de Sartre. Donc il va vraiment se ressaisir de tout ce versant théorique en passant par des récits de science-fiction qui, à l'époque, n'étaient pas forcément très bien considérés, en passant par des histoires de détectives. Donc il a, par exemple, beaucoup écrit sur les romans de Raymond Chandler, qui donc met en scène un détective qui résout rien du tout, qui est juste un peu paumé dans un Los Angeles un peu post-apocalyptique, et donc on se promène dans ce paysage à travers les yeux du détective qui recherche des indices mais qui est un peu corrompu, donc au final qui résout pas grand chose. Et ce que Jameson va faire de ces récits de détectives qui étaient vraiment plus à l'époque dans les années 60 des romans de gare, c'est qu'il va dire en fait que là où l'humain peut refaire sens dans un paysage totalement nivelé où tout est vraiment pareil, que ce soit les œuvres ou les produits commerciaux, c'est justement le sujet qui va pouvoir refaire sens, puisqu'il va pouvoir avoir ce rôle de navigateur et de créer des constellations à partir de tous ces signes-là. C'est-à-dire que les objets, les signes, n'ont plus aucune valeur en elles-mêmes, Mais c'est pas grave puisque tout ça va pouvoir être reconfiguré par l'expérience individuelle. Donc on a ça aussi chez Nicolas Bourriaud, le critique d'art français qui, lui, dans les années 90, va parler de la posture du sémionaute, c'est-à-dire ce navigateur entre les signes, et en fait il rejoint un peu les mêmes théories qui ont lieu aussi au tournant des années 90. Donc moi, ça m'intéressait de partir un peu de ce point de vue-là et de voir comment on peut aller au-delà, puisqu'il y avait quand même de nouvelles théories du sujet qui ont hébergé ces dernières années. Jameson parle aussi beaucoup du concept de bâtir des mondes, puisqu'il va nous dire qu'en fait, toute la marchandise est totalement fétichisée, ce qu'on peut voir par exemple avec les Brillo Boxes de Warhol, où en fait on a donc une attitude différente à l'égard des objets qui commencent à se mettre en place dans le pop art, puisque l'artiste, quand il sort un ready-made comme ça, c'est plus la matérialité des objets qui l'intéresse, mais c'est en fait leur réalité historique datée, et la notion de style qu'ils peuvent porter et de nostalgie. Donc c'est un fétiche pour lui qui représente la volonté de revenir à une période où il existait encore une certaine distance entre les objets, où le paysage manufacturé possédait encore une certaine stabilité. Donc lui, au contraire, il va se dire, bon, en fait, de nos jours, dans les années 80, on peut ressaisir tout ça par une expérience du sujet. Et moi, dans cette exposition, pour recontextualiser un peu tout ça dans notre période, puisqu'on n'est plus dans les années 80, mais plus de 30 ans après, il me semble que l'œuvre de Pierre-Jean Levasseur, justement, montre un peu cette position du sujet dans un univers totalement numérisé, puisqu'on voit justement, c'est une vidéo où l'homme est absent, mais où il y a quand même un point de vue, puisqu'on se balade à travers ces paysages 3D, à travers ces cartes, mais on a gardé toujours la position justement du sujet qui est isolé derrière sa voiture. Donc un peu comme la posture du détective dans les romans de Raymond Chandler.
Oui. Et puis, peut-être ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que comme tu parlais de Nicolas Bourriaud tout à l'heure, là, pour le coup, on est notamment dans les œuvres de cette exposition, mais c'était le cas aussi des deux premières du cycle, dans des situations où la notion de post-production d'éléments qui viennent du réseau, qui viennent d'images toutes prêtes, qui viennent de, pas seulement de ready-made au sens historique du terme, mais vraiment dans le sens d'une remise en jeu d'éléments qui qualifient aussi l'histoire contemporaine est vraiment constante. C'est-à-dire, c'est le cas chez Pierre-Jean de Lassac, c'est le cas aussi chez...
Il y a
autre chose. voilà, c'est le cas aussi de cette œuvre. Enfin, c'est-à-dire la question que tu évoquais, quoi, c'est-à-dire d'objets qui sont convoqués pour leur charge iconographique, voire fétiche, est très très forte. Et c'est évidemment le cas de manière flagrante dans la vidéo de Yann Chiaochon.
Oui, peut-être qu'on peut faire une petite parenthèse aussi sur cette œuvre. Du coup, donc Miao Chiaochun est un artiste chinois qui. Chiaochun.
Miao Chiaochun.
Oui, si vous avez des choses à dire ou des questions à poser, n'hésitez pas à participer. On est suffisamment nombreux pour pouvoir le faire.
Oui, c'est une. Alors, excusez-moi, c'est une chose que j'ai oublié de dire au tout début parce qu'on est parti en tête sur les projets, etc. Mais effectivement, si vous avez des questions, on préfère vous les poser au fur et à mesure.
Plutôt qu'en loup à la fin.
Plutôt qu'à la fin. N'hésitez pas à nous interrompre.
Donc, Miao Chiaochun, qui est un artiste chinois, photographe, peintre, et qui travaille aussi avec les logiciels de modélisation 3D, qui travaille du coup avec toute une batterie de petits assistants, comme le faisaient les grands peintres de l'époque, qui du coup leur demande de numériser et de modéliser, en tout cas en 3D, tous les grands classiques de l'histoire de l'art, mais de manière sans couleur, sans rien, de la manière la plus simple possible. Et lui, après, donc, réutilise du coup ce matériau, donc, qui sont ces éléments 3D qui représentent du coup les grands classiques de l'histoire de l'art, et les réassemble du coup pour créer donc, soit des compositions vidéo, comme vous pouvez voir ici, soit des grandes impressions numériques où il recrée les grands formats, comme si c'était des retables un peu qu'on pouvait avoir dans des églises, où il recrée du coup toutes ces scènes bibliques, mais avec l'aide en tout cas du langage informatique. Et dans son œuvre, donc, c'est une question qu'il pose, donc la limite pour déterminer si c'est de l'art ou non, de cette création artistique assistée par le langage informatique qu'il utilise du coup de plus en plus et qu'il pousse vraiment, vraiment très très loin dans certaines créations où il invente des algorithmes qu'il va laisser eux-mêmes créer l'œuvre. Et du coup, il pose cette question de la place de l'artiste aujourd'hui grâce à toutes ces technologies qui permettent aussi de réaliser des œuvres. Et du coup, voilà, donc cette limite, où est-ce qu'elle est justement, donc cette limite pour dire si c'est de l'art ou non. Et en utilisant du coup dans Restart, donc du coup la vidéo qui se déroule derrière vous, donc ces technologies-là, il nous propose une sorte d'univers un peu post-apocalyptique où l'être humain aurait disparu et c'est donc que ce langage informatique qui persisterait. Et du coup, ce qu'il resterait de cette trace de l'humanité ne serait visible que dans la réinterprétation des grandes œuvres d'art de l'histoire de l'art par des machines. Parenthèse.
Ouais. Non, mais oui, mais c'est... Parce qu'effectivement, c'est une des œuvres qui pousse ça de la manière la plus flagrante. Est-ce que peut-être tu pourrais reprendre par rapport à ce que tu étais en train de dire
sur la suite
du postmodernisme finalement.
Oui, voilà. Et du coup, pour moi, la figure qui fait le lien, enfin surtout par rapport à cette vidéo, en fait, en la voyant, c'est la figure, enfin c'est la vidéo où peut-être la figure de l'humain est la plus présente, mais c'est une forme totalement détournée puisqu'on a ces avatars qui sont les avatars
de l'artiste,
j'ai bien compris, oui. Sur lesquels viennent se surimposer toutes ces références, donc que ce soit sur leur corps eux-mêmes puisqu'ils vont prendre les couleurs de céramique hollandaise ou ils vont venir prendre les postures des naufragés du radeau de la Méduse. Et du coup, moi j'avais pensé à une figure qui fait un peu le lien entre les années 80 et aujourd'hui, qui est Donna Haraway. Ah. Voilà, donc Donna Haraway, qui elle, en fait, est connue pour avoir donné ses lettres de noblesse à la figure du cyborg. Donc la figure du cyborg qui, auparavant, était vraiment cantonnée au récit de science-fiction et donc que le milieu universitaire avait toujours un peu de mal à prendre au sérieux. Et elle s'est servie du cyborg pour le réintroduire dans le champ de la philosophie pour parler justement de féminisme en disant que le féminisme devait être une expérience décloisonnée et ne plus s'en tenir au genre établi mais penser une espèce de troisième homme. Et du coup, moi j'avais pensé à un texte assez récent de Donna Haraway qui produit toujours beaucoup, qui s'est remis en fait à écrire des textes et qui avait donné l'année dernière une conférence à Paris, au colloque de Cerisy, où elle parlait de gestes spéculatifs et qui était un peu une remise en question de toutes ces histoires de science-fiction. Et elle, en fait, elle partait de ce concept assez connu aujourd'hui, qui est l'anthropocène, qui consiste à dire qu'on est rentré dans un âge où l'influence de l'homme a à tel point une influence néfaste sur la nature qu'on ne peut plus rester dans le même âge géologique, puisque avec les réchauffements climatiques et tous ces phénomènes-là, on est vraiment rentré dans une nouvelle période. Et elle s'oppose un peu à ce concept d'anthropocène, qui pour elle lui paraît toujours partir non seulement d'une classification scientifique, mais aussi très phallocentrique, donc vraiment l'homme scientifique blanc, une figure un peu colonisatrice comme ça. Et du coup, dans ce colloque, l'année dernière, elle proposait de revenir non seulement à l'individualisme, donc on a encore cette position du sujet, mais aussi à fabriquer, disait-elle, des embrouilles inter-espèces, c'est-à-dire penser non seulement l'homme, la femme et les animaux, mais vraiment un peu subvertir tout ça pour passer au-delà des règnes des genres. Donc elle disait justement qu'elle ne voulait pas adopter la posture de scientifique, mais qu'elle voulait se laisser contaminer et troubler par le problème, et que la seule façon de sortir de cette opposition duale, c'est d'en appeler à la joie créatrice et à la pensée collective. Donc elle, en fait, elle va nous proposer de repartir des êtres tentaculaires qu'on trouve dans la science-fiction, qui justement fabriquent leur propre univers, leur propre biosphère, qui coupent et qui nouent, qui tissent des chemins et des conséquences, mais pas des déterminismes, qui sont à la fois ouverts et noués selon certaines manières et pas d'autres. Donc elle nous dit que la science-fiction, c'est arriver à nouer à la fois des histoires, de la fiction et des faits. C'est configurer des mondes possibles et des temps possibles, des mondes matériels sémiotiques disparus, actuels encore et à venir. Et voilà, donc elle parle vraiment de cette pensée de l'embrouille et du compostage matériel sémiotique pour justement sortir un peu de l'anthropocène et du post-humanisme pour aller vers un présent beaucoup plus incarné, mais qui serait tentaculaire. Et ça, je pense, c'est vraiment exactement ce qu'on peut voir avec, avec cette vidéo. Et il aura fallu sans doute le détour par la Chine et par un nouveau monde qui n'a peut-être pas cette notion du temps linéaire et de la conservation qu'on peut avoir ici de notre côté, pour justement réussir à mettre des images sur cette pensée-là qui existe depuis les années 80.
Oui, parce que ce qui est assez frappant aussi quand on voit cette vidéo, c'est que bien qu'elle soit censée figurer un monde d'après la disparition de l'homme, etc., ça reste un univers dans lequel la question du corps, de l'ambiguïté des sexes, reste très forte, enfin, c'est-à-dire qu'il y a une incarnation permanente, quelque chose de flottant entre donc cette figure de l'artiste et à travers les figures de la peinture qui sont représentées, c'est aussi en permanence des corps qui reviennent, quoi. Enfin, quelque chose de l'ordre de la présence ambiguë du corps, quoi, qui est très 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 forte, je trouve.
Oui, et puis tu parlais d'individualisme, mais du coup c'est vrai que, pour revenir aussi sur ce que tu dis, Thierry, c'est que il dit lui-même que tous les personnages, absolument tous les personnages, qu'ils soient féminins, monstrueux, masculins, enfants, bébés, enfin de cette vidéo, sont des avatars de lui-même. Donc mm-hmm. C'est ça qui est assez de se rendre compte de ça, c'est que c'est l'humanité, mais à travers sa propre vision de lui-même, plus que l'humanité.
Et alors, donc du coup, peut-être que c'est un petit raccourci, mais quand on parle d'entropie, quand vous parlez d'entropie, si vous évoquez le terme d'entropie par rapport à ce qu'on vient de dire, est-ce que ça veut dire que ça convoque la notion de désordre? Comment est-ce que vous la... Est-ce que ça convoquerait l'idée que on rassemblerait des choses qui sont déjà existantes, mais qu'on essaierait avec elles d'éprouver des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, par exemple, puisque est-ce que c'est tout ça pour vous la notion d'entropie dans l'exposition? Est-ce que c'est le moment où on perd le contrôle de ce qu'on est en train de mettre en jeu?
Je pense que nous, ce qu'on a voulu regarder et travailler, c'est la tentative frénétique de vouloir ordonner le monde et tout ce qu'il contient, de vouloir absolument tout trier, classer, comparer, et de créer de l'ordre, quoi, cette tentative de créer de l'ordre pour conserver un monde. Et d'essayer de voir de se rendre compte que c'est absolument vain et de regarder à quel endroit c'est vain, comment c'est vain et ce qui se passe quand on admet à un moment donné que c'est vain.
Mais...
Justement, si là, la question, c'est de dire que l'entreprise, c'est donc d'organiser le désordre, c'est en plein dedans.
Non, c'est notre réaction face au désordre, en fait. C'était plutôt ça, l'idée, c'est d'essayer.
C'est une notion un petit peu scientifique, justement, qui essaie de classifier ce qui relève du désordre, de l'énergie disparate.
Et nous, on avait envie d'aborder aussi dans cette exposition la question du changement qui fait peur, en tout cas qui fait peur aux êtres humains. Et c'est quelque chose qu'on peut voir aussi, par exemple, qui est assez bien illustré avec l'œuvre de Magali de Bataille qui est dans le salon, du coup, donc derrière, qui traite de la manière qu'ont les grandes institutions à quantifier absolument tout. Donc là, par exemple, elle a pris l'exemple du bonheur, mais pour le coup, il y a bien quelque chose qui est difficilement quantifiable, c'est ça. Et pour essayer de cartographier le monde, pour essayer de le figer, pour en garder une trace un petit peu de comme il est avant, puisqu'on sait qu'il va évoluer, qu'il ne ressemblera plus à ça dans quelques années. Donc ce besoin de tout enregistrer un peu frénétiquement, de tout calculer, que ce soit le monde, que ce soit les sentiments humains, le souvenir.
Donc la désorganisation, c'est une valeur, mais on ne peut pas la mesurer.
Voilà. Ça dépend, après, je pense que dans le cadre de cette exposition, non, on peut peut-être pas... vu qu'on n'a pas un axe vraiment très précis, qu'on a choisi du coup plusieurs médiums artistiques qui parlent de sujets vraiment très différents, c'est plutôt pour garder du coup toutes ces questions complètement ouvertes sans choisir vraiment un chemin très très particulier auquel justement on pourrait répondre à ces questions ou mesurer ou quantifier en tout cas cette désorganisation.
Et alors sauf si vous souhaitiez... Non, non, je ne savais pas si vous aviez fini votre question, chef. Du coup, si je reviens sur Zola Haraway, parce que ça m'intéressait de voir quel était le lien après que tu faisais entre justement ce qui est devenu le postmodernisme, comment il a intégré les éléments du digital qui sont passés dans la culture, etc. Et comment ces questions-là ont été transformées ou sont potentiellement transformés justement par une pensée qui ne partirait pas du principe qu'il y a eu l'ère d'après la fin de l'homme et que cette époque-là est beaucoup plus poreuse que ne le laisserait penser la notion d'anthropocène. Où est-ce que tu emmenais Donna Haraway?
Oui, alors c'est tout simplement cette idée en fait de revenir dans le présent en disant que tous ces grands récits de science-fiction qui ont marqué les débuts des années 80, on est en train vraiment de les rapatrier pour penser d'autres présents possibles. Oui. De se dire en fait que la possibilité, elle n'est pas forcément dans le futur, dans un temps historique linéaire, mais on est vraiment en train de pluraliser toutes ces pistes-là, aussi avec l'arrivée, enfin, notamment dans l'histoire de l'art, avant l'histoire de l'art qui était une histoire, c'était une route pavée de chefs-d'œuvre très européenne, des artistes mâles et blancs.
Oui.
Donc là, on est en train de se rendre compte que le modernisme a aussi été fait par des femmes qui étaient dans les régions qu'on connaît moins. Et donc on a des figures comme ça qui émergent à 80 ans et qui vont être des femmes qui étaient au Liban, qui étaient en Afrique. Et du coup, il y a vraiment cette pluralisation des pistes. Et on se rend compte que dans notre rapport au monde non plus, on ne peut pas continuer à avoir une lecture historique selon la pointe du temps, la pointe de l'histoire, qui irait toujours dans le même sens. Donc, Donna Haraway, elle participe de ce renouveau des philosophies matérialistes, mais qui ne sont jamais que purement matérialistes, qui sont toujours matérialistes quelque chose, matérialistes spéculatives. Elle, je crois qu'elle est... elle se revendiquait l'anthropocène à un moment, maintenant je ne sais plus trop où elle est, mais elle participe à un colloque sur les gestes spéculatifs, donc elle ne peut pas être totalement en opposition avec tout ça non plus. Et justement, à propos du chaos... Il y a le philosophe Quentin Meillassou qui est vraiment l'une des voix les plus singulières à avoir émergé dans le champ de la pensée français et mondiale ces dernières années, qui lui va essayer de lui qui est matérialiste spéculatif, et qui va justement essayer de se demander comment on peut philosophiquement et scientifiquement essayer de penser le chaos. Donc il va se dire, en fait, un chaos total n'est absolument pas envisageable, puisque on voit bien que ne serait-ce que dans un roman de science-fiction, on n'a pas envie que les choses arrivent totalement par hasard. On a envie que ça soit bizarre, mais pas trop, qu'il y ait juste un élément perturbateur, mais qu'on puisse voir les causes et les effets de cet élément sur un vrai déroulement.
On a besoin d'un récit.
Voilà, exactement. Ouais. On a quand même besoin d'un récit. Donc c'est
d'une
la différence.
Science, en l'occurrence.
Pardon ?
D'une science.
D'une science. C'est la différence.
Oui.
Et voilà, et pour lui, en fait, les récits classiques de science-fiction restent quand même dans le cadre de la science, puisque les événements qui arrivent ont des causes et des effets, c'est-à-dire même si une météorite qui tombe du ciel, elle tombe du ciel, elle ne va pas n'importe où. Et donc lui, il dit, bon, en fait, si on essaie de penser à un univers où les lois de la science seraient plus courtes, il appelle ça la fiction des mondes hors science, ça ne peut pas être totalement le chaos non plus. Donc il faut essayer de trouver un entre-deux qui serait un chaos organisé. Donc c'est toute la tentative de ces romans. Et ça serait aussi justement essayer de penser une mesure qui ne serait pas forcément une mesure individuelle. Et je pense qu'il y a plusieurs œuvres dans l'exposition qui répondent à ça. Moi, j'avais noté l'œuvre justement de Félicie d'Étienne Dorve, qui, elle, est vraiment dans un système de mesure, c'est un étalon. Mais c'est l'idée d'un temps cosmique qui ne serait pas un temps humain, parce que, somme toute, le temps humain, c'est une convention parmi d'autres. Donc on peut quand même garder l'idée de la mesure, mais ce n'est pas forcément la mesure telle qu'on la connaît.
C'est des étalons qui représentent la durée que met la lumière à nous parvenir depuis différents astres. Donc il y a un étalon qui représente le temps que la lumière met à nous parvenir de Mars et un du Soleil, en l'occurrence.
Et est-ce que cette notion du hors de l'humain, on la retrouve dans d'autres œuvres aussi, dans cette exposition ? Est-ce que c'est quelque chose... Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on ressent de manière assez forte avec l'œuvre de Félicie d'Étienne Dorve, puisqu'en fait, elle met en place, elle installe une temporalité qui échappe à la nôtre, qui échappe à notre perception, déjà, pour commencer. C'est-à-dire que, tout simplement, puisque la lumière va, pour parcourir un mètre, mettre le temps qu'elle met pour aller de la Terre au Soleil ou de la Terre à Mars, c'est ça ?
De Mars à la Terre.
De Mars à la Terre, voilà. Donc c'est une temporalité qui échappe à notre perception. Est-ce que dans l'exposition, pour vous, il y a d'autres dispositifs, d'autres propositions qui installent de la même manière un ordre, un registre qui échappe à celui de l'humain, qui recherchait cette entropie là où la perception humaine n'a pas forcément cours ou...
Il y a sa voisine juste à côté, l'installation d'Evelina Domnitch et Dimitri Gelfand, qui est dans cette boîte noire. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, peut-être qu'on pourra faire une visite après, parce qu'elle est un peu particulière, assez fragile, il faut la faire dans un certain cas. Qui est la reproduction... une expérience en quelque sorte. En fait, ils ont travaillé, Evelina Domnitch et Dimitri Gelfand, sur la sonoluminescence, qui est un phénomène rare et inobservable par l'être humain dans des conditions normales, qui est que dans l'eau, les bulles d'air agitées à certaines fréquences sonores vibrent de telle façon qu'elles vont s'effondrer sur elles-mêmes, créer au sein d'elle-même une chaleur d'environ 10 000 degrés, qui est à peu près la chaleur à la surface du Soleil, et créer spontanément, dégager spontanément de la lumière, juste à partir de leur vibration à cause du son. Donc, dans cette pièce qui est totalement plongée dans le noir, il y a une boule de verre, un gros aquarium avec de l'eau dedans. Et on envoie des ultrasons dans l'aquarium qui vont faire vibrer les micro-bulles d'air dans l'eau et nous rendre visible ce phénomène. Je ne sais pas si c'est clair.
Si. Oui, tout à fait.
Donc là, on est hors de l'humain, puisque ce phénomène, quand on a pu l'observer, c'était uniquement... le fait de micro-crevettes dans les fonds marins qui agitent leurs membres à une telle vitesse qu'elles secouent les micro Bulder derrière elle et
à une vitesse, qui n'est pas observable en fait. Et est-ce qu'on pourrait dire la même chose avec le travail de Pierre-Jean Le Bassac, par exemple? C'est-à-dire, est-ce que cette cartographie, est-ce que cet envers cartographique du monde, comme ça, convoquerait un espace qui est perçu, on pourrait dire, comme on peut, par tranches, par... qui échapperait à la...
C'est une
à la
cartographie simulée de fait, ouais. Hors du sensible normalement, mais je crois que c'est... Il y a justement beaucoup d'humains dedans, dans la pièce, qui est... Enfin, c'est une dérive au sens de la dérive de bord, de traverser cette cartographie simulée. Au gré de ses émotions et pas au gré d'une tentative de contrôle établie par des grands d'Internet et notamment Google, puisque c'est à travers YouTube, Google Earth, Google Maps, avec comme guide la voix de Google Translate.
Ouais.
Et c'est plutôt une tentative de résistance humaine, mmh, à ça.
Donc... est-ce qu'on pourrait... J'essaye d'avancer sur ce petit film comme ça.
Est-ce que cette œuvre pourrait rentrer dans celle-ci?
Voilà, en fait, c'est la question que j'avais posée. C'est Gandhita Kumar, par exemple.
L'homme ne perçoit plus qu'il est enfermé dans toute cette société d'électronique, entassés les uns sur les autres, et qu'il n'a plus la perception de tout ça, en fait. Donc, qu'est-ce que
Là, pour le coup, on va plus... Alors, dans la forme même, on va plus rebondir avec, par exemple, la vidéo Miao Tiao Shun, où là, c'est plutôt... je parle de la forme de ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de la bouteille. Ça va plutôt être la réutilisation, à ce moment-là, et la réinterprétation. Là, du coup, c'est un peu à l'envers, puisque c'est la réinterprétation de l'artiste, du monde, par l'artiste, en utilisant un matériau qui sert... à créer les machines, en fait, donc le circuit imprimé. Donc là, elle a détourné ce système de circuit imprimé pour en créer des sculptures et pour l'utiliser aussi comme ça, en tant que sa fonction première, donc conduire l'électricité d'un endroit à un autre, donc pour faire fonctionner les petits écrans qui sont à l'intérieur. Et donc cette œuvre, en fait, elle s'appelle Polymorphic Humanscape. Elle parle donc la société indienne. Les villes en tout cas, qui se sont retrouvées submergées par la population, qui, avec la promesse d'avoir un niveau de vie meilleur proposé par les usines de microprocesseurs, trouver du travail donc, dans ces villes, donc, se sont retrouvées complètement écrasées par la population. Donc on a tous vu ces vidéos en Inde de ces routes complètement saturées. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui se passe chez eux. Et du coup, donc ces villes s'en retrouvent, donc ces systèmes-là, du coup, s'en retrouvent complètement perturbés, donc ne peuvent plus fonctionner correctement. Mais malgré tout, on se rend compte que comme si l'être humain pouvait se retrouver un peu à l'état de petite fourmi, réussit à retrouver un ordre, à retrouver une sorte d'organisation à l'intérieur de cette désorganisation aussi. Et après, la forme de la bouteille, moi c'est complètement personnel, moi je le vois un peu comme un format échantillon en fait de ce que pourraient devenir toutes les villes dans le monde. Mm-hmm.
Alors j'aimerais du coup revenir sur une chose que tu évoquais tout à l'heure, parce que j'ai l'impression qu'on tourne autour de ça dans plusieurs des œuvres. Tu parlais de logique d'assemblage, tu parlais d'entropie comme des logiques d'assemblage, c'est-à-dire comme des logiques d'articulation de choses qui proviendraient de régimes différents ou de natures différentes.
Oui, alors du coup, c'est toujours cette même idée en fait, de se dire les matériaux naturels ou culturels sont devenus tellement similaires en fait, que c'est qu'on peut vraiment en faire sens que en parcourant, en assemblant ces signes-là.
Ouais.
Ce qui revient évidemment aussi l'idée du cyborg à un autre niveau, quoi. C'est juste cette idée de de créer plusieurs univers parallèles. Et c'est aussi la raison pour laquelle moi, je n'ai pas forcément ça comme le monde des hommes et le monde hors de la perception humaine, mais plutôt comme plusieurs, en fait, comme une espèce d'exercice de pensée qui serait celui d'arriver à se projeter dans plusieurs univers parallèles qui pourraient très bien exister ou pas en parallèle de ce monde-là. Et donc ça, c'est aussi tout le point de départ de la pensée spéculative, c'est de dire on peut pas effectivement arriver à connaître le monde en soi, qui était le grand postulat de toutes les théories justement structuralistes, qui se sont dit puisqu'on peut pas connaître les phénomènes, on va se mettre les phénomènes naturels, on va se mettre à étudier les faits sociaux, c'est-à-dire le langage, comme tous les théoriciens français, Deleuze, Derrida, tout ça, les langages et les relations sociales, ce qui est ce qui ressort de la sphère des humains, donc on peut connaître, et on va laisser tous les phénomènes naturels aux scientifiques. Donc on ne pourra jamais avoir de point de vue d'ensemble sur tout ça, mais voilà, on sait que ce n'est pas possible, donc il y a cette barrière-là qui provient en fait, qui provient déjà de Kant, qui disait qu'on avait toujours accès aux phénomènes naturels à travers les deux catégories humaines du temps et du langage. Et donc au contraire, la philosophie spéculative va prendre le contre-pied de tout ça, du corrélationnisme, pour dire bon, si on peut effectivement pas connaître les phénomènes en soi, ça nous empêche pas de faire le trajet imaginaire vers ces phénomènes-là et de tenter de les penser. Donc c'est pour ça qu'ils vont essayer d'imaginer plusieurs mondes possibles. Et moi, du coup, avec cette pièce-là
de
Kumar, justement, moi, je me disais que ça pouvait un peu symboliser ça aussi, d'avoir cet univers-là à côté de plusieurs autres, en fait. C'est un peu cette petite en forme, mais il peut y en avoir d'autres qui coexistent. Et c'est un peu ce qu'on voit avec les cartes aussi, puisqu'au final, on a quand même... On voit qu'il est possible d'avoir non pas une perspective unique, qui est aussi une convention de la peinture, cette perspective de la Renaissance, où tout est centré, mais qu'on peut très bien avoir des multiples avatars ou des multiples points de vue qui sont tous individuels, mais qui montrent une même réalité, saisie différemment et perçue différemment.
On est plutôt dans une logique d'étagement de plusieurs, plusieurs réalités qui peuvent s'interconnecter ou avoir entretenir des porosités les unes avec les autres.
Ou pas forcément, ou pas, et justement, c'est la difficulté d'arriver à... C'est un exercice d'acceptation aussi, en fait, de se dire quelque chose peut exister qu'on ne comprendra pas et auquel on n'a pas forcément accès.
Donc quelque chose qui est de l'ordre de la logique d'acceptation d'un non-contrôle, en fait.
C'est ça,
Parce qu'on était parti de là.
De la perte de contrôle.
Au tout début, voilà. On était parti de cette question de la perte de contrôle, quoi. Et
on a parlé de tous les ailes, là, je pense.
Pardon ?
On a parlé de toi.
On a quasiment évoqué tout. Non, on n'a pas évoqué. On n'a pas évoqué Émilie Pitoiset et Thomas Trondel Gautier.
Et juste pour rebondir là-dessus, de fait, nous, ce qu'on essaye de travailler dans les expositions, et particulièrement ici à Maison Populaire, comme c'est un lieu qui est traversé par 2500 adhérents tous les jours, et c'est pour ça aussi qu'on travaille autour de la fiction. C'est,
et sur la perte de contrôle. Il y a plein de non-humains qui travaillent en haut.
C'est de... En fait, derrière, il y a des jardins avec
ils vont dans la cinquième dimension qui s'ouvre entre la porte de droite et la porte de gauche.
Il y a des ateliers, des cours, de un peu tout ce que vous voulez.
Poterie, musique, yoga, voilà.
C'est de construire ces expos pour que...
Pour les gens qui font
le
jeu. Ouais, bah, enfin, pour créer une situation dans laquelle chacun puisse avoir un rapport individuel à l'œuvre, qui ne soit pas un rapport, qui ne soit pas quelque chose que nous, on vient imposer au public en disant voilà, c'est ça, il faut le penser comme ça et pas autrement. mais qui soit quelque chose qui laisse de la place à chacun de pouvoir développer ses propres fictions à travers toutes les œuvres et à travers l'exposition.
Et parce qu'en fait, on allait au tout début, vous alliez parler d'Émilie Pitoiset.
Au tout début. Là,
non, là, je veux dire de la phrase de ce que tu es en train de
dire. Ah non, moi c'était juste pour rebondir sur les fictions juste avant et sur l'ensemble des possibles.
Ouais. Et parce que.
On essaye de faire que chacun puisse imaginer les possibles.
Aborder ça, oui, de ça à sa propre manière. Parce que, comme on parlait de la perte de contrôle, Émilie Pitoiset, c'est un assez bon exemple aussi, je trouve, d'un dispositif qui laisse une perte s'installer. Quelque chose est en train de disparaître. Ce qui est en train de disparaître relève de la matérialité du support qui se dégrade. La dégradation du support fait que le message se perd, que le message disparaît. Est-ce que ça vous semblerait juste de dire que un certain nombre d'œuvres, pas forcément toutes, mais instaurent un dispositif dans lequel quelque chose ne leur appartient pas, dans lequel un contrôle se perd, justement, quelque chose se déploie qu'elle ne maîtrise pas. La lumière pour Félicité Thiède d'Orme.
Je pense que oui, c'est juste, mais ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une perte de contrôle qui est vraiment, au final, presque pas contrôlée, mais qui est mise en scène et qui est vraiment...
Qui est mise en jeu, qui est vraiment délibérément mise en jeu comme dispositif par certaines des œuvres. Ou même, on pourrait dire, des photographies, quoi, qui sont amputées, coupées à un endroit où elles pourraient laisser entrer un autre sens.
La perte de contrôle est sur les photographies de David Delruel, elle est du niveau du hors-champ aussi, justement de laisser le spectateur, l'imagination du spectateur construire ce qui manque à l'image. Uh-huh. Et donc pouvoir projeter à cet endroit-là quelque chose de personnel et d'intime. Donc effectivement, il y a un contrôle total sur... le matériel lui-même et une perte de contrôle totale sur ce qui va en être compris
de la même manière que j'ai fait les sites d'Étienne Nord, c'est justement là où ça ne contrôle pas que moi je peux m'investir en tant que spectateur. C'est là que je vais élaborer face à l'œuvre, parce que c'est là où l'œuvre justement à la fois construit cette perte de contrôle, c'est-à-dire en construit les conditions, la met en œuvre, fait en sorte que quelque chose se déploie qu'elle ne maîtrise pas, mais c'est ce qu'elle ne maîtrise pas qui m'est donné à interpréter quand même.
Mais qui est vraiment mis en scène pour le coup, puisque cette perte de contrôle est mise en scène dans quelque chose qui paraît très contrôlé. La bouteille, on ne peut pas en sortir, donc on est censé d'avoir confiné cet univers à l'intérieur, donc quelque part maîtrisé. Le maître étalon, c'est le maître étalon, c'est la constante universelle pour la mesure, alors que du coup ce qui se passe à l'intérieur change, mais Félicie Desiendor va quand même choisir ce format-là. Les petits coffrets de Thomas Tronel Gauthier, c'est pareil, ce sont des coffrets, ce sont des boîtes dans lesquelles on peut enfermer, on peut enfermer le phénomène qui s'y passe. Et c'est quelque chose qu'on retrouve peut-être effectivement pas dans toutes les œuvres, qui est très présent, mais
oui, quelque chose qui serait de l'ordre d'une tension entre une part qui permet la maîtrise et une part qui justement échappe.
Une perte de contrôle contrôlée.
en tout cas, une mise en jeu. Oui. Ingrid, par rapport à ça, tu souhaitais continuer
Non, pas forcément, ça me paraît.
Non, j'avais l'impression que tu voulais intervenir.
Après, oui, il y a toujours une question, mais c'est complexe, quoi.
Est-ce que, je sais pas, est-ce que...
Et tout le monde est de l'expo, moi, je suis perdue, parce qu'en fait, j'ai pas vu l'expo, donc j'écoute, mais...
Mais bien bien sûr, ça faisait partie.
Et on vous fait
visiter.
Non, mais on vous fait visiter. C'est pour ça qu'on a voulu se mettre dans l'expo aussi, c'est pour des gens qui n'ont pas vu l'expo.
On va parler des œuvres qui sont autour. Ça,
c'est le. Ouais, c'est avec les œuvres.
Les deux mètres.
Et ça, c'est quoi? Celle-ci, derrière? C'est Polymorphic Humanscape de Nandi Takumar. Mais évidemment, on peut vous laisser faire un tour. Après, on va rester encore quelques temps après. Donc, si vous avez des questions par rapport à des œuvres, si vous avez besoin d'explications, on est tout à fait là. Et de toute façon, on va vous faire, pour ceux qui le voudraient, du coup, expérimenter l'œuvre qui est enfermée dans sa petite boîte noire.
J'ai encore une question. Oui. Alors, qui n'est pas forcément une confusion, parce que voilà,
non.
Au tout début, quand tu as commencé, tu as dit, j'ai l'impression qu'il y a deux choses qui me semblent importantes. À la fois le déploiement d'un moment historique et la manière dont on ressent les ressacs et les effets d'un moment historique. Et, as-tu dit, quelque chose qui serait de l'ordre de l'intimité.
Oui, bah alors du coup c'est tout le versant Tristan Garcia, mais c'est un peu compliqué aussi, c'est-à-dire que...
Est-ce que ça ne te semble pas trop de... parce que je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant.
Ouais, c'est rapidement, mais bon après c'est vraiment c'est une autre question encore.
Ouais.
Mais c'est justement de dire, bon, dans cette notion d'univers désorganisé, le chaos organisé, on peut le voir du point de vue justement des phénomènes extérieurs, des phénomènes scientifiques et des différents mondes qui peuvent coexister, mais aussi du point de vue de l'individu. Et là, ce serait par rapport à les notions d'intensité, en fait.
Oui.
C'est-à-dire que ces expériences incarnées, sensibles, on n'a aucun point de vue extérieur pour les mesurer.
Oui.
Et voilà, et je pense que toutes ces œuvres-là sont quand même éminemment sensibles et font toujours appel au spectateur qui va être là pour les compléter, pour les réincarner.
Ouais, pour voir, pour les reconstituer parfois.
Et en fait, et pour le dire rapidement, je pense que cette notion-là d'intensité développée dans le bouquin de Tristan Garcia présente un peu en creux partout, justement. Et de se dire que l'intensité, c'est cette, pour lui, c'est la notion la plus partagée aujourd'hui, puisque dans toutes les pubs, on va nous promettre un café merveilleusement intense. Et ça va être depuis les libéraux.
Excusez-moi, je vous propose de téléphoner à l'extérieur, excusez-moi, parce que là, ça va être un peu compliqué.
Et du coup, non, et dans tous les discours marketing, que ce soit des politiques de droite ou de gauche, en fait, on a tous envie d'une expérience hyper intense. Justement parce que les grands récits sont effondrés, donc on n'a plus que nous-mêmes auxquels se raccrocher. Et cette mesure-là semble être aussi un peu présente.
Oui, parce que c'est aussi dans ce qu'on disait tout à l'heure, dans ce qui échappe, dans ce qui est donné à ressentir comme échappant,
ouais.
Il y a aussi l'idée que c'est quelque chose qui va nous... qui nous dépasse aussi. Enfin,
oui, et c'est là parce que quelqu'un nous dit qu'il vit une expérience super intense, on peut pas mesurer en fait.
Non,
on est un peu obligé de le croire sur parole. Ce rapport-là, on est finalement tout seul face à nos expériences du monde.
Là le matérialisme spéculatif aussi, du coup, c'est parce qu'on ne peut pas avoir une vraie expérience du monde.
Oui, et plus ontologie, donc c'est encore autre chose, mais oui, sans doute, ouais. Ils sont tous en train de s'engueuler un peu. Donc lui, il dirait non, mais oui. Mais effectivement, ça participe de ce même courant de pensée-là qui est quand même hyper récent. Quelque chose de beaucoup moins nihiliste que ce qu'on a pu avoir dans les années 90. Ouais.
D'accord.
Quand on parlait de Tristan Garcia, parce que peut-être tout le monde ne connaît pas le titre
du livre. Oui, c'est un livre qui s'appelle La vie intense,
voilà.
Qui est un tout petit essai qui se lit hyper bien. C'est pas de la philo, c'est un essai, c'est hyper pop, c'est hyper facile. Et c'est vraiment très bien.
Ouais.
Et je ne travaille pas pour la maison d'édition. Mais j'en fais la pub.
On ne sort pas le livre sur la table à la fin.
En plus, c'est un petit livre rouge, donc ça fait un peu maoïste aussi.
Voilà, oui. Et ce qui est très, très intéressant et très juste dans ce livre de Tristan Garcia, c'est qu'il y a trois choses j'avais trouvées qui m'ont vraiment touché. La première, c'est qu'il fait vraiment une histoire de ça. Et que cette histoire, il l'ancre. Dès la naissance de l'électricité.
Ouais.
Et ça trace une histoire de la mythologie de l'intensité, enfin de la manière dont l'intensité s'est construite à la fois comme phénomène social, comme récit aussi. Il parle en même temps, deuxièmement, de la façon dont l'intensité s'est construite comme ça historiquement pour chacun de nous, quoi. Mais aussi de la manière dont elle se construit comme injonction, comme norme, comme quelque chose qui serait devenu la chose non mesurable, ouais. mais en regard de laquelle on mesure tout. Il y a un moment du livre, j'ai trouvé vraiment passionnant par rapport à ça, en disant ben c'est quelque chose dont on est absolument incapable de mesurer, mais tout se mesure par rapport à ça. C'est-à-dire, tout se mesure par rapport au fait que c'est fort, c'est intense, c'est plus ou moins fort. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose dans plusieurs de ses œuvres, je trouve, qui effectivement fait vraiment penser à ça. Y compris ça, hein, parce que y compris l'œuvre de Giaoshu, parce que c'est comme un rêve, quoi. Il y a comme l'idée que les choses reviendraient en rêve, mais plus fort, quoi, enfin plus.
Mais je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas. Dans le paysage artistique français, on a quand même beaucoup les petites œuvres qui citent des théories ou des œuvres préexistantes et qui vont dire bon, j'ai fait une œuvre à partir de ça, qui existe déjà, et donc je vais en réinterpréter une partie. Et là, c'est vraiment des univers internes, en fait, qui ne se réfèrent pas à une histoire de l'art déjà établie.
Non, ça ne prend pas les œuvres de l'histoire de l'art comme des références, mais ça les prend comme des objets. Et ça redéploie quelque chose.
Oui, ou comme
Rien du tout.
Ou comme
Rien du tout. Est-ce que vous auriez envie d'aller vers une autre piste, ou est-ce qu'on conclut sur ces questions-là? Non, pas particulièrement. Ingrid, ça te va? Bon, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, vous retrouverez certaines de ces pistes et les idées qu'on a pu évoquer autour de ce cycle d'exposition et de l'exposition dans le catalogue qui sortira le 9 décembre. Hein, c'est ça,
tu
hein.
nous fais la promo.
Je fais le. Hein, je,
la promo du
Je fais le. Et merci beaucoup, Ingrid, d'être venue pour cette rencontre avec nous trois. Merci beaucoup à vous d'être venue participer à cette discussion, écouter cette discussion. Et puis, à bientôt.
Merci.